Le Mag de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo et surtout bon réveil à tous, 7h passées de 2 minutes, vous êtes bien dans le Mag de l'Immo. Au programme, comme d'habitude, durant cette première heure, de l'actu, des infos, des découvertes. Ensemble, nous allons parcourir des sujets passionnants qui vous intéressent, que vous soyez professionnel de l'immobilier, futur bailleur ou bien propriétaire. Et voilà, aujourd'hui, je suis seul pendant 7 heures et c'est vrai qu'il y a des rappels de vaccins et c'est un peu compliqué pour certaines. Pensez bien évidemment pour Fabienne Lissac qui est normalement à mes côtés. Voilà pour cette introduction. Alors, comme d'habitude, on va partir juste avant 8h, on sera en compagnie de Jean-Michel Royot pour sa start-up IMO. Et puis à 8h, Sylvain Lévy-Valency me rejoindra. Nous avons un invité exceptionnel, Olivier Vignol. C'est le directeur général d'ICAD qui se révélera avec nous, qui sera sur ce plateau et qui va se raconter comme d'habitude. On va découvrir l'homme derrière la fonction. Vous verrez un homme et un portrait passionnant. Voilà, on démarre tout de suite ce Mag de l'Immo. Bienvenue à tous.
Le Mag de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Et on démarre ce Mac de l'Immo avec la Chine et le marché immobilier chinois qui est peut-être en train de se retourner dans l'empire du milieu. En tout cas, rien ne va plus pour les grandes valeurs immobilières boursières en Chine. Rien ne va plus pour l'immobilier chinois. Après Evergrande et Caixa, un autre promoteur menace de déstabiliser le marché immobilier chinois. L'action du promoteur immobilier Shimao a en effet plongé mardi dernier à un plus bas depuis 10 ans, ce qui déclenche à nouveau les inquiétudes des investisseurs autour d'un secteur lourdement endetté en Chine. Shimao est le dernier groupe immobilier du pays à s'enfoncer dans la crise avec une chute de la valeur de l'action d'un tiers de sa valeur en 5 jours. La société, 13e promoteur immobilier de Chine en termes de ventes contractées, compte environ 10 milliards de dollars d'obligations en circulation en Chine et à l'étranger. Or, Shimao et ses filiales doivent rembourser 2,5 milliards de dollars d'obligations arrivant à échéance en 2022 avec une grosse échéance de 314 millions de dollars en janvier. Y a-t-il des rumeurs sur un éventuel défaut de paiement ? Ce ne serait pas une première. Début décembre, le géant Evergrande a fait défaut sur des emprunts totalisant 1,2 milliard de dollars et le plus modeste Caixa n'a pas pu rembourser 400 millions de dollars. Les groupes immobiliers chinois sont en tout cas en grave difficulté depuis les mesures prises l'an dernier par Pékin pour assainir un secteur criblé de dettes et marqué par la spéculation effrénée des particuliers. Lestés par les pertes de Shimao, les ventes immobilières chinoises sont en passe de tomber à leur plus bas niveau depuis mars 2017, selon un indice de l'agence de presse financière. Et il n'y a pour le moment pas de signe d'amélioration. Le marché immobilier, qui est l'une des locomotives de l'économie chinoise, est en train de se gripper. Il se retourne bel et bien dans l'empire du milieu. Les prix des logements neufs en Chine ont baissé pour la première fois en 6 ans, selon des données officielles publiées mercredi. Au-delà de ces données, toujours sujettes à caution, le contexte de méfiance des acheteurs face au risque de faillite de plusieurs promoteurs pourrait faire chuter le marché immobilier et même boursier.
Le Mag de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Qui Reim dévoile son étude prospective inédite. Claire Furin, directrice R&D pour Qui Reim, nous dévoile les résultats et les tendances sur la manière dont nous utiliserons et financerons l'immobilier de demain. L'interview de Claire Furin, directrice R&D de Qui Reim, c'est avec Kenza Braiga.
Bonjour Claire Furin.
Bonjour.
Vous êtes directrice R&D pour Kizrem. Donc à l'occasion des 10 ans de votre groupe, le département que vous dirigez a réalisé une étude prospective inédite sur la manière dont nous utiliserons et financerons l'immobilier de demain. Avant de parler justement des grandes tendances qui en ressortent, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Kizrem pour commencer ?
Bien sûr, Kizrem, on est investisseur spécialisé dans l'immobilier. On a donc 10 ans cette année et on a une petite spécificité ou petite inclinaison particulière pour les usages et l'expérience qui prend naissance dans nos actifs. On s'intéresse d'abord aux besoins des gens qui vont utiliser nos actifs immobiliers, c'est-à-dire nos immeubles, pour que ces immeubles soient toujours adaptés aux usages du moment, aux grandes évolutions sociétales du monde, du quartier, de la ville, et que ainsi nos actifs, donc nos immeubles, gardent toutes leurs valeurs.
Alors justement, quelle est la genèse de cette étude ? Pourquoi avoir eu envie de la mettre en place ?
Eh bien, c'est exactement ça, la genèse de l'étude. Kiz s'est donc lancé avec cette attention particulière pour les gens qui habitent les espaces immobiliers que l'on investissait, en disant certaines convictions fortes pour l'immobilier nous ont animés et nous ont permis d'arriver au stade où on est aujourd'hui. Et donc, il nous paraissait important de renouveler l'exercice, qu'on renouvelle évidemment en permanence,
oui.
Mais de prendre le temps de se poser à l'occasion de cette pandémie et de réfléchir aux grandes évolutions que connaîtra l'immobilier pendant les 10 années à venir. Mmh. C'est un travail qu'on a fait, je veux dire, avec la cheville ouvrière qui est le département R&D du groupe, qui s'appelle Curiosity is Kiz.
Alors, il y a 7 tendances hein, qui ressortent de cette étude, mais on ne va peut-être pas toutes les citer, mais est-ce que vous pouvez nous en dire au moins 3 qui, pour vous, sont les plus importantes ?
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, dans cette étude, on parle du bureau qui se décentralise, de l'hôtellerie qui devient aussi un lieu de travail avec les workations et un lieu de loisirs avec les hôtels lifestyle, du logement qui se gère. Mais peut-être aujourd'hui, on peut parler de l'immobilier commercial dont on a beaucoup parlé à l'occasion de la crise et qui pour nous se pense aujourd'hui et demain comme une place village. Le commerce, selon nous, n'est pas mort, contrairement à ce que certains ont pu dire dans des réactions à chaud. Il se réinventait déjà, il continue de se réinventer pendant et après cette crise, parce que le commerce pratique, c'est Internet aujourd'hui, évidemment. Et donc, il faut trouver de nouveaux axes d'attractivité pour le commerce. Et finalement, on s'inspire de l'image de la place du village d'antan, où l'on vient autant pour faire ses courses que pour rencontrer du monde, venir aux nouvelles, voir les nouveaux produits, avec un nouvel enjeu qui était déjà l'enjeu de ces lieux, place du village, dans nos villages français, qui est de réussir à recréer un espace à mi-chemin entre espace public et espace commercial, avec évidemment une activité commerciale, mais donc marchande, mais aussi des activités non marchandes. Donc on envisage des lieux animés où il se passe toujours quelque chose d'unique et surtout de différent de la place du village d'à côté, ce qui veut dire que ce sont des lieux qui sont très ancrés dans leur contexte local, qui sont très en lien avec leurs habitants, les associations du quartier, les commerçants du quartier, et qui créent du lien social pour la ville en contribuant, par exemple, à lutter contre le sentiment d'isolement et de solitude. Un bon exemple dans notre portefeuille, c'est Alix Factory à Lisbonne, au Portugal. C'est un tiers-lieu. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a été parmi les premiers à investir dans des tiers-lieux dans le paysage de l'investissement français. Et c'est un tiers-lieu qui est pensé comme une place du village qu'on a acquis en 2017 et qui rassemble artisans, librairies, cafés, restaurants, auberges de jeunesse, théâtre, animation artistique, bureaux, hôtels, hostels, etc. Avec des acteurs de renom comme par exemple l'artiste Banksy qui est venu s'exprimer sur le site, qui aujourd'hui attire 700 000 visiteurs par an et qui est, en fonction des sondages, la première ou deuxième destination touristique de Lisbonne. Donc c'est vraiment devenu un lieu de destination pour les Lisboètes et pour les touristes.
Très bien. Donc c'est cette grande tendance, en tout cas, qui ressort de cette étude. Hein. On est d'accord.
En tout cas, oui, sur le commerce et l'immobilier commercial, il nous semble important de repenser à l'échelle de la ville et du quartier, en écosystème, de mettre plusieurs usages en lien dans un esprit de mixité fonctionnelle et de répliquer peut-être cette vision et cette tendance dans les pieds d'immeubles, de bureaux, de logements et d'autres typologies d'actifs.
Très bien. Merci beaucoup, Claire Fleurin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice R&D pour Kizrem. Merci encore.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Bonjour, c'est Philippe Boyer. Retrouvez-moi chaque mois dans Complètement à l'Ouest. Économie, art, sciences, gastronomie. Des invités prestigieux analysent le monde qui nous entoure et décryptent notre société. Bref, ils nous parlent de tout, sauf d'immobilier. Rendez-vous mardi à 19h sur Radio Immo. Alors, prêt à mettre le cap à l'Ouest ?
ThyssenKrupp Elevator. Et maintenant, TK Elevator, entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond. www.tkelevator.fr.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
La frénésie immobilière semble s'être déplacée de Paris à la campagne. On constate dans nos territoires que les prix bondissent. La chronique tout de suite de Fabienne Lissac.
Paris, malade du Covid. La crise sanitaire a soulevé des désirs d'habitation plus grande, des envies de verre. Beaucoup de Parisiens semblent fuir la capitale. Cela se répercute sur les prix. Le site annonce Meilleurs Agents indique que les prix parisiens de l'immobilier ont perdu 1% en novembre. Les prix des logements n'augmentent plus à Paris. Et oui, même ils baissent, comme si Paris restait à l'écart de la dynamique nationale de hausse des prix. Aucune catégorie de biens n'est épargnée par ce recul. Les petites surfaces sont en repli de 1%, les grandes de 0,9%. Si on parle d'arrondissement, en recul, le 14e, le 11e, le 20e, le centre, moins 2,5%. Et oui, avec le confinement, de nombreuses personnes ont mal supporté de se retrouver enfermées. Elles ont entrepris de quitter leur petit appartement pour trouver quelque chose de plus grand, de plus spacieux, doté d'un espace extérieur. Cela les amène à s'éloigner jusqu'à la première couronne, voire plus. Alors, le meilleur agent Paris est sur un retour à un niveau de 10 000 euros le mètre carré dans 3 mois si la tendance à la baisse se poursuit cet hiver. Une période traditionnellement morne pour le marché immobilier. Quels sont les facteurs à l'origine de ces mouvements? À compter également qu'une partie des appartements loués habituellement pour des séjours touristiques de courte durée ont été mis sur le marché et l'encadrement de plus en plus strict des plateformes touristiques n'incite pas de nouveaux investisseurs à se lancer. D'où la baisse. Attention, quelques arrondissements tirent tout de même leur épingle du jeu. C'est le cas du 19e arrondissement, le 9e et le 7e.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Les deux experts de la digitalisation immobilière, Shoyu et Quality, décident d'unir leurs expertises. Shoyu intervient depuis 2016 sur la digitalisation des travaux modificateurs-acquéreurs et Quality est le pionnier de la digitalisation du management des travaux. Alors pourquoi ce rapprochement? On fait le point avec Florent Barbier, le directeur commercial de Quality. Il est au micro de Fabienne Lissac.
Florian Barbier, bonjour. Vous travaillez comme directeur commercial et pouvez-vous nous parler de cette activité de digitalisation immobilière, s'il vous plaît?
Oui, bonjour. C'est une activité qui permet, grâce à l'informatique et à la puissance des outils numériques, une simplification extraordinaire des process métiers qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, étaient complexes, fastidieux et chronophages.
Alors, c'est vrai que Quality et Shoyu interviennent sur ce secteur et vous avez décidé de faire cause commune. Quelle spécificité, quelle complémentarité finalement entre les deux?
Une complémentarité assez simple, c'est être au service de nos clients promoteurs et de leurs clients acquéreurs avec un accès unique à l'offre que l'on peut proposer. C'est-à-dire que plutôt de multiplier les outils, on leur offre des accès simplifiés à un outil unique.
Vous travaillez avec combien d'acteurs, hein, qu'on se rende compte un petit peu l'ordre de grandeur finalement?
Tout à fait. Sur la cible principale de Quality, on a une base client de 450 promoteurs sur environ 1000 promoteurs. Donc c'est plutôt satisfaisant, ce qui représente environ 100 000 logements par an qui sont livrés avec Quality et une cible de 80 000 acquéreurs qui sont touchés par cet outil.
Si on se résume, quels peuvent être les avantages, l'atout, notamment pour les utilisateurs?
Ouais. Pour les utilisateurs, l'intérêt principal, c'est une transparence dans sa relation avec le promoteur sur un achat qui est complexe, qui est effrayant. Et donc, c'est à la fois la possibilité de personnaliser son bien en direct avec le promoteur, mais aussi de suivre toutes les problématiques de qualité et donc de jouer sur la partie anxiogène de la livraison et de la fin de chantier.
Merci beaucoup Florent Barbier pour cet éclairage, alors que Shuyu et Quality unissent leur expertise pour simplifier l'expérience de l'acquéreur de logement. Merci.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Vous recherchez une solution rapide et efficace qui vous permettrait de réaliser vous-même tous vos visuels? Faites comme plus de 10 000 agents immobiliers et choisissez de faire confiance à Nodal View. Avec Nodal View, vous allez pouvoir réaliser vos photos, vidéos et visites virtuelles de qualité professionnelle en toute simplicité depuis votre smartphone. Nodal View, c'est la solution idéale pour ceux qui souhaitent améliorer leur visibilité en ligne et se démarquer grâce à une communication innovante. À l'occasion des PropTech Digital Days, profitez de moins 20% sur votre starter pack Nodal View. Rendez-vous sur notre vitrine en ligne ou sur nodalview.com pour en savoir plus. Nodal View, partenaire premium de Radio Immo durant les PropTech Digital Days.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Attention pour tous les propriétaires qui nous écoutent, les logements classés E, F ou G par le diagnostic de performance énergétique vont devoir changer de classe ou bien il ne sera plus possible de les louer. Le nombre de ventes de ces logements classés dans les plus bas niveaux E, F, G sont en train d'exploser. On écoute tout de suite la chronique de Vincent Favero.
Une explosion du nombre de logements considérés comme des passoires thermiques mis en vente, c'est ce que constate le groupe Se Loger dans une étude réalisée pour Le Parisien aujourd'hui en France. Dans de nombreuses métropoles, le nombre de logements mis en vente classés E, F ou G est en train d'exploser, avec des chiffres très importants sur les villes de Rennes par exemple, plus 102%, Lyon affiche plus 77% de ses logements mis en vente, et Lille plus 67%. À Paris, les chiffres aussi sont affolants, plus 107% de logements considérés comme énergivores et donc classés E, F ou G dans la capitale. Ils représentent donc 47% du total des logements mis en vente, soit presque un logement sur deux. Cette grande braderie à la passoire thermique pourrait s'expliquer par le nouveau calendrier mis en place par le gouvernement. Dès le 1er janvier 2023, une partie des biens classés G ne pourra plus accueillir de locataires. Suivront ensuite l'ensemble des logements G en 2025, les logements notés F en 2028 et les logements E en 2034. C'est donc une véritable course contre la montre qui s'ouvre et il semble que les propriétaires souhaitent massivement se débarrasser de leur logement. Selon les professionnels, l'effet déclencheur est bien le nouveau calendrier. Mais ces derniers s'inquiètent aussi de l'entonnoir, les temps des ventes et les dates butoirs arrivant. Les nouveaux propriétaires vont-ils toutes et tous pouvoir engager les travaux nécessaires à la transformation énergétique des logements? D'autant que ce sont les biens avec les travaux les plus lourds qui arrivent en ce moment sur le marché. Le gouvernement maintient aujourd'hui son calendrier. Selon ses chiffres, ce sont 4,8 millions de logements qui sont concernés par ce calendrier, à savoir 15% du parc immobilier national.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Je t'aime, t'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime.
plage et Saint-Gilles, la gueule à qui je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué, t'es la plus belle, oui, t'es la plus belle. Et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La merde c'est que mille femmes, mais que Bruxelles vaut mon âme. Et si un jour elle se sépare, et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas fait rire, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué, t'es la plus belle, oui, t'es la plus belle. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me mangent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne t'oublie pas. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me mangent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne t'oublie pas.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Avec la crise sanitaire, l'envie de disposer d'un toit au vert est devenue plus forte que jamais. Plusieurs sociétés proposent de faciliter ce rêve. C'est le cas d'Alta Casa qu'il propose aux particuliers de devenir propriétaires de parts de maisons haut de gamme. Alors, peut-on réaliser son rêve ? On écoute l'interview de Maureen Allouel, cofondatrice d'Alta Casa. Une interview menée par Fabienne Lissac.
Bonjour Maureen Allouel, vous travaillez comme CEO chez Alta Casa, qui tout simplement ambitionne de révolutionner l'accès à la résidence secondaire. Vous pouvez nous expliquer votre ambition ? Bonjour d'abord.
Oui, bonjour. Bien sûr, l'objectif d'Alta Casa, c'est de proposer des parts de maisons secondaires et ainsi de permettre à plus de gens d'avoir accès à des maisons dans des beaux endroits pour venir y passer des vacances, des longs week-ends ou même y télétravailler. Donc le principe, c'est que nous, on achète de belles résidences secondaires, on les rénove, on les meuble et ensuite on vend en parts jusqu'à 8 parts. Donc il peut y avoir de 2 à 8 copropriétaires. On propose un système de réservation qui fait en sorte que les séjours, la répartition des séjours soit équitable, pour que tout le monde n'ait pas le 14 juillet ou la semaine de Noël, enfin pour que tout le monde ait au fil des années les dates clés. Et ensuite, on s'occupe de toute la gestion de la maison pour vraiment libérer l'esprit des propriétaires et les soulager de toutes les charges et tout le temps que prend la gestion d'une maison secondaire.
Alors, c'est vrai qu'on voit sur votre site des magnifiques villas au Baléares, dans les Alpes, en Normandie. Alors, si moi, je n'ai pas assez d'argent, le budget, pour me payer une résidence secondaire, là, vous dites, si c'est possible, à quel ticket, à quel niveau on peut y accéder ?
Alors, on va avoir des tickets assez différents, puisqu'on proposera des huitièmes de part de 100 000 euros à 500 000 euros environ. Ça va dépendre de la taille de la maison, de la localisation de la maison, bien sûr. Et ensuite, chaque propriétaire peut décider d'acheter un huitième, un quart, une moitié, en fonction du temps qu'il souhaite y passer.
Vous dites que c'est l'occasion de redynamiser le tissu local. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bah, si vous voulez, en moyenne, les maisons secondaires sont occupées 15% du temps. S'il y a 8 personnes qui se partagent une maison, elle va forcément être beaucoup plus occupée. Nous, on vise 80% du temps. Et donc, cette occupation fait qu'il va y avoir des besoins des occupants qui vont redynamiser le commerce et la vie locale aussi.
Est-ce que ça fait penser un peu à Mythique ? Vous trouvez le partenaire avec qui je vais pouvoir acheter ensemble une résidence secondaire ? Ça nécessite beaucoup d'échanges. Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup d'affinités ou finalement c'est juste un projet commun ?
Alors, c'est pas Mythique parce qu'a priori, les copropriétaires ne se rencontreront jamais. On leur demande pas de créer une communauté. Nous, on est un facilitateur de vente fractionnée de maisons. Donc, on est le tiers de confiance. On est la personne qui va trouver les différents. Notre service va trouver les différents copropriétaires. Mais a priori, il n'y a aucune raison de rentrer en contact avec les autres copropriétaires parce que de toute manière, personne ne sera là en même temps.
Et donc, c'est totalement nouveau. Ça n'existait pas en France.
C'est totalement nouveau, ça n'existait pas en France, ça existe depuis très peu de temps aux États-Unis et ça marche très fort. Ça arrive donc en France grâce à Alta Casa. Ça peut rappeler le timeshare d'il y a quelques années, mais en fait on est très différent du timeshare pour plusieurs raisons. La première, c'est que chaque propriétaire n'a pas une semaine bloquée. Il réserve quand il le souhaite un séjour dans cette maison. La deuxième, c'est qu'il est réellement propriétaire de part d'une SCI et pas uniquement d'un droit de jouissance et qui peut revendre quand il le souhaite au bout d'un an au prix du marché. Et le troisième, c'est qu'on se positionne dans un marché haut de gamme, de belles maisons secondaires et pas de grands immeubles où chacun a son appartement.
Et bien voilà, la résidence secondaire accessible à tous ou très bientôt à beaucoup de gens, c'est très intéressant. Merci Maureen Well, vous êtes CEO d'Alta Casa. Merci pour cet entretien.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Le dispositif SRU pour solidarité et renouvellement urbain oblige certaines communes à disposer d'un nombre minimum de logements sociaux. Elle a été votée jeudi, mais avec des ajustements. On fait le point tout de suite. Emmanuel Wargon l'avait annoncé, la loi SRU pour solidarité et renouvellement urbain, qui impose aux communes un taux de 20 à 25% de logements sociaux pour développer la mixité sociale, sera pérennisée au-delà de 2025. C'est désormais chose faite. Dans le cadre du projet de loi 3DS qui vise à améliorer les relations entre l'État et les collectivités, après plusieurs heures de débat, les députés ont donné jeudi dernier, 9 décembre, le feu vert à une pérennisation du dispositif SRU après 2025. Des objectifs de rattrapage sont prévus pour les communes accusant du retard, avec des modalités d'adaptation pour celles rencontrant des difficultés objectives. Certains ajustements sont prévus pour adapter les critères d'exemption, par exemple, pour mieux tenir compte du manque d'attractivité de certaines communes ou pour tenir compte d'une faible demande en logement social. Mais le projet de loi prévoit aussi de renforcer les sanctions financières pour les communes ne répondant pas aux critères fixés par la loi. Au 1er janvier 2019, sur 2091 communes concernées par la loi SRU, seulement 767 avaient atteint l'objectif, 1100 étaient déficitaires et 224 exemptés. En revanche, la mesure a également ses détracteurs. Le député Thibault Bazin a souligné que cette loi n'avait pas produit que des effets heureux, regrettant à certains endroits la création de quartiers à 100% en logement social, ce qui ne crée pas de la mixité. Un amendement a aussi été voté interdisant la vente de logements sociaux dans les villes ne se conformant pas aux objectifs de la loi SRU afin de ne pas diminuer le nombre de ces logements. Emmanuel Wargon et le rapporteur LREM Mickaël Nogal se sont dit défavorables à cet amendement, jugeant qu'il pourrait empêcher dans ces communes la vente de logements sociaux à des locataires désireux d'accéder à la propriété.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Frédéric Violo, notaire en charge des statistiques immobilières nationales, fait le point et fait un bilan de toute cette année par les notaires. Il est au micro de Fabienne Lissac.
Frédéric Violo, bonjour. Vous êtes notaire en charge des statistiques immobilières nationales. Le bilan 2021 fait état de niveaux records atteints dans l'immobilier, n'est-ce pas ?
Oui, absolument. Niveau record en volume, le nombre de ventes dans l'ancien, le nombre de logements, toutes catégories confondues dans l'ancien, au 30 septembre 2021, sur une année complète, donc 30 septembre 2020, 30 septembre 2021, atteint 1 204 000 transactions. Si on fait une comparaison avec l'évolution sur l'année 2019, hein, c'est-à-dire avant confinement, on se retrouve avec une augmentation de quasiment 15%. Donc c'est un volume record qui est la conséquence d'un effet de rattrapage suite à la sortie des périodes de confinement et puis aussi d'un effet d'anticipation. Il y a eu un effet accélérateur sur les volumes.
Tout porte à croire quand on vous entend que la tendance à la hausse va se poursuivre.
Alors, tendance à la hausse sur les prix, pour l'instant, effectivement, le marché est très tendu, les biens trouvent rapidement des acquéreurs, donc forcément, ça participe du dynamisme de ce marché. Dans ce contexte-là, on n'est pas surpris que le prix des appartements, le prix médian, ait augmenté de 7,5% sur un an. Cependant, il faut quand même rester mesuré pour les mois à venir. Il faut bien comprendre que 15% de volume de plus comparativement à une année 2019 qui était déjà une année record. Il faut se souvenir que fin 2019, quand on a atteint le million de transactions, c'était déjà un chiffre record. Donc 15% de plus que le chiffre record, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout à la fois un rattrapage et aussi une anticipation. Il y a une accélération de la prise de décision, conséquence de l'état d'urgence sanitaire. On a vu ce phénomène d'accélération dans plein de domaines. L'immobilier n'a pas échappé à cette dynamique, à ce comportement. Mais il faut aussi comprendre que ces ventes-là qui ont été faites ces derniers mois sont probablement des transactions qu'on ne va pas faire sur les mois à venir.
Dans ce contexte désormais déjà politique, le terme de pouvoir d'achat immobilier prend toute sa valeur. Comment vous l'analysez, vous ?
Le pouvoir d'achat immobilier, on s'est amusé à le modéliser. C'est un exercice qu'on fait annuellement dans l'analyse de nos statistiques. On part d'un postulat à mensualité constante. Est-ce que je peux m'acheter plus ou moins de mètres carrés que ce à quoi je pouvais accéder l'année précédente ? Si je prends l'exemple des appartements, on a distingué évidemment les appartements et les maisons. Pour le cas des appartements, lorsqu'on regarde ce qu'on peut s'offrir avec 800 euros par mois sur 20 ans, la tendance avec le taux de Banque de France, sur 20 ans, on considérait que le taux était de 1,13, c'était le taux Banque de France sur l'année 2021. On va se retrouver avec 50 mètres carrés à l'échelle de la France, c'est une moyenne bien entendu. C'est 4 mètres carrés de moins que ce qu'on pouvait s'offrir l'année dernière. Donc, stricto sensu, le pouvoir d'achat, il a baissé. Pourquoi il a baissé ? Tout simplement parce que les taux d'intérêt qui jusqu'alors portaient la hausse des prix ont atteint leur seuil le plus bas. Donc on arrive à un moment où le taux d'intérêt nous permettait de gagner parce qu'il baissait, eh bien, ne compense plus l'augmentation des prix. Donc on a atteint un effet plancher sur les taux d'intérêt et on comprend mieux ainsi qu'on ait un petit peu moins de mètres carrés cette année qu'on pouvait en avoir l'année dernière. Maintenant, si on joue sur la durée de l'emprunt et si on va plutôt vers 25 ans, ben on s'aperçoit que la pièce supplémentaire que beaucoup de Français réclament, on peut se l'offrir. Lorsqu'on fait l'exercice dont on parlait tout à l'heure, avec 800 euros par mois au taux de 1,13, mais qu'on va travailler sur 25 ans et pas sur 20 ans, eh bien là, on va s'offrir 61 mètres carrés et non plus 50 mètres carrés, donc un peu plus.
Même si certains Parisiens ont quitté la capitale, le terme exode est un peu fort. Comment vous l'analysez ?
Oui, il est un peu fort parce qu'il faut évidemment le rapporter à la volumétrie globale du marché immobilier. Donc oui, il y a eu émergence d'un nouveau comportement immobilier. Il y a effectivement aujourd'hui des personnes qui ont souhaité s'excentrer de centres urbains très denses. On a beaucoup parlé de Paris, mais on a fait l'exercice comparé également sur d'autres grandes villes et on a constaté les mêmes résultats. Mais il ne faut pas voir un exode massif. Pour prendre l'exemple de certains départements limitrophes de Paris, vous avez effectivement une augmentation des nombres de mutations intéressants des Franciliens qui viennent s'installer dans ces départements limitrophes. Mais département par département, ça représente quelques centaines de mutations. Donc rapporté à un marché global de 1,2 million, il faut se calmer, hein, il ne s'agit pas d'un exode massif. Mais c'est une nouvelle tendance.
Oui, pour finir, l'immobilier pour les Français, c'est un rêve ou un casse-tête ?
Bon, c'est de moins en moins un casse-tête. Je pense que le fait d'acquérir sa résidence principale ou même une deuxième résidence a toujours été une aspiration assez profonde et majoritairement affirmée par les Français. On a produit un sondage il y a quelques jours qui confirme cette tendance. Donc je pense que globalement, la volonté de capitaliser, d'investir dans la pierre reste une sécurité, reste une aspiration et est plus vécue pour une majorité de Français comme étant plutôt quelque chose d'avantageux et pas vraiment un casse-tête.
Frédéric Violo, merci beaucoup pour cet éclairage sur le bilan des notaires pour cette année. Merci.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
On se souvient du fiasco du premier DPE lancé le 1er juillet. Eh bien, le diagnostic de performance énergie corrigé est bien opérationnel. Emmanuel Wargon a fait le point sur ce nouveau DPE, c'était le 2 décembre dernier. Chose promise, chose due. Comme elle s'y était engagée, Emmanuel Wargon, ministre délégué chargé du logement, a réuni jeudi 2 décembre dernier les représentants des professionnels de l'immobilier, des propriétaires et des bailleurs sociaux, des diagnostiqueurs, des éditeurs de logiciels et des notaires. À l'ordre du jour figurait le bilan du nouveau DPE, un mois après sa mise en œuvre au 1er novembre. On rappelle que l'ancien DPE, lancé le 1er juillet 2021, avait suscité une levée de boucliers de la part de la profession. Dès sa mise en œuvre, les professionnels de l'immobilier avaient tiré la sonnette d'alarme sur les premiers résultats anormaux, car les nouveaux paramétrages classaient quasi systématiquement en classe F et G les logements datant d'avant 1975. Une tuile lorsqu'on sait que ce classement non seulement devient opposable, mais fait sensiblement baisser le prix de vente et rendra même toute location impossible d'ici à 2028. Le ministère du Logement avait donc annoncé le 24 septembre dernier la suspension de l'édition des diagnostics de performance énergétique pour ces logements et un nouveau DPE revu et corrigé avait été présenté dès le lundi 4 octobre. Depuis le 1er novembre, la méthode de calcul a été corrigée, puis validée par les diagnostiqueurs immobiliers. Ces derniers, qui ont repris leur travail à la normale, ont confirmé que les nouveaux DPE réalisés depuis les corrections, soit environ 160 000, ne présentaient plus d'anomalies, bien que la situation reste sous surveillance. Enfin, Emmanuel Wargon a également tenu à rappeler que les diagnostiqueurs qui auront réédité des DPE classés D, E, F ou G sur des bâtiments d'avant 1975 seront indemnisés à hauteur de 60 euros par DPE sur la base du nombre de DPE réédités. Les diagnostiqueurs concernés pourront demander l'indemnisation une fois la période de réédition passée, soit après le 28 février 2022. Plus de 220 000 logements seraient concernés par des rééditions. L'erreur de calibrage du nouveau diagnostic de performance énergétique aura donc coûté quelque 13 millions d'euros à l'État.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Can't make friends. Pray for better days. Now it's 300K when my day ends. Do you remember last night? Cause I blacked out in an all white dress with a back out. Said be careful with a heart cause it's fragile. And thinking about a past make a lash out. See with me it ain't no worries at all. Any problem I be there in one call. If we locked in you my dog. Fanny you hang pictures on my wall. Roll one let's get high tonight. Backseat Maybach lavish life. Chilling with the stars like a satellite. AP on my arm and it's shining bright.
Better days.
Et on vient d'écouter Better Days par Mae Muller et Naked sur Radio Imo.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Tout de suite, c'est l'heure de retrouver la start-up IMO avec Jean-Michel Royot. Lead2Keys apporte la digitalisation du cœur de métier du professionnel, la prospection et la constitution du référentiel Habitat. On écoute Jean-Michel Royot en compagnie de son fondateur, Laurent Ayoun.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis ravi d'accueillir Laurent Ayoun. Bonjour Laurent.
Bonjour Jean-Michel.
Comment allez-vous?
Très très bien, pleine forme.
Alors Laurent, c'est un des deux cofondateurs de Lead2Keys.
Exact.
C'est bien ça, j'ai bien
c'est
prononcé.
C'est bien, et juste l'accent, mais sinon non, c'est présent, c'est très très bien.
Moi j'ai l'accent du sud.
Lead2Keys en fait, c'est, alors on le traduit tout de suite comme ça c'est fait. Ça veut dire depuis la piste jusqu'aux clés.
Jusqu'aux clés.
Voilà, l'idée alors, c'est, et on va en parler, mais on est vraiment, je le dis tout de suite, nous, en amont du mandat.
En amont du mandat. Alors c'est quoi votre promesse, cher Laurent?
Notre promesse c'est d'accompagner tous les professionnels de l'immobilier dans leur transformation digitale. Et quand je dis ça, je fais en fait une petite parenthèse par rapport à de nombreux sites qui veulent digitaliser la prospection, mais qui veulent la digitaliser totalement. Donc nous, avec mon associé Patrick, on s'est donné cette mission d'accompagner les professionnels pour les aider à prendre ce virage qui n'est pas facile. L'agriculture, c'est plus digitalisé que l'immobilier. Je le dis à chaque fois, j'ai cette réputation maintenant, je l'assume. Mais voilà, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit.
Donc un boulevard pour votre start-up alors?
Un boulevard pour notre start-up, bon, on peut dire ça.
Alors comment, on a envie d'en savoir plus, hein, quand vous nous dites on veut digitaliser, donc on imagine beaucoup de choses. Professionnel de l'immobilier, il y a beaucoup de choses dans cette définition aussi. Hein. Vous pensez aux promoteurs, vous pensez aux agents immobiliers, vous allez nous dire tout ça. Eh bien, on va vous donner, avec notre super technicien Théo, on va vous donner une minute dans notre infinie gentillesse pour en savoir plus. À vous Laurent.
Je vais essayer de tenir. Donc c'est toutes ces professions que vous avez citées, c'est plutôt au départ, parce qu'on vient de ce monde-là, l'immobilier résidentiel, donc on est deux professionnels de l'immo, on a fait une app pour les professionnels de l'immobilier, très important. Et Lead2Keys finalement, c'est l'app qui permet de digitaliser la prospection, on va pouvoir y mettre tous ces leads, sans exception, quel que soit leur canal de provenance. Et on va pouvoir les suivre sur une cartographie, on va les géolocaliser, plutôt que d'avoir des tableaux Excel, des choses compliquées, on va avoir sa propre production de prospection sur une carte. Et avec une particularité, c'est que j'ai à la fois mes leads à moi, les miens de ma prospection, et ça va parler à tous les professionnels qui nous écoutent, qui prospectent du foncier, du résidentiel, du commerce, du bureau, ça parle à tout le monde, vraiment. Et puis j'ai des leads que je vais pouvoir capter, qui sont pas issus de ma prospection, mais qui sont des leads que je vais pouvoir acquérir par le biais de partenaires, par le biais de portails sur lesquels je suis moi-même annonceur. Donc, en fait, l'idée, c'est d'agréger ces leads. Ouais, j'ai presque tenu.
L'agrégation, bravo, l'agrégation des leads, d'accord. Très bien. Et donc, on y voit maintenant beaucoup plus clair. Merci, Laurent. Qui vous fait confiance aujourd'hui? Vous m'avez parlé de réseau avant l'émission. Alors, donnez-nous quelques noms.
On va dire que, et j'insiste bien aussi là-dessus, c'est que on est évidemment une app qui est plébiscitée par les grands réseaux, normal, parce que ils ont l'habitude de la prospection et c'est des choses assez structurées. Mais on est aussi très présent, et de plus en plus, dans des agences indépendantes, dans des petites agences, dans des petits groupes d'agences, dans les grands réseaux intégrés. Alors, si j'en cite quelques-uns, voilà, on va nous trouver dans les réseaux d'anciennes franchisées, chez Orpi, chez Guillotquet, chez La Forêt, plein d'autres. Et on va nous trouver aussi chez les agents indépendants, les mandataires, dans les grands réseaux mandataires que tout le monde connaît, donc qui sont IAD, propriété privée.
D'accord. Donc là, on est plutôt sur les métiers de l'agence immobilière.
Oui, on est sur les métiers de l'agence, mais aujourd'hui, alors évidemment, bien sûr, on est très proche des agences immobilières, mais force est de constater que les mandataires arrivent, ils sont là, ils sont plus qu'arrivés aujourd'hui, ils sont présents, et qu'une bonne application de prospection, elle est valable pour tous les pros, donc on veut vraiment pas faire de différentiel là-dessus, mais oui, bien sûr, on est présent dans les poches de toutes ces personnes.
Très bien, et comment on vous contacte?
Alors, on nous contacte sur notre site, leadstokies.com, L-E-A-D-S, le chiffre de K-E-Y-S.com. Et puis, on peut nous contacter aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Donc on va me trouver, moi, Laurent Ayoun, avec un H, avec un H sur LinkedIn. Et je voudrais aussi profiter de cette opportunité que vous me donnez pour dire que nous venons de boucler, et on est vraiment très fiers de ça avec Patrick, mon associé. On a beaucoup bossé sur ce sujet pendant longtemps et on vient de boucler notre levée de fonds. C'est vraiment tout frais, c'est pratiquement là, c'est toute dernière semaine. Donc ça va nous permettre vraiment d'accélérer notre développement et de poursuivre nos partenariats. Et puis c'est pour moi l'occasion de parler d'un de nos plus importants partenaires qui est bien ici. Et on les aime parce qu'ils nous ont fait confiance depuis le début. C'est important pour nous.
On salue David.
Voilà, on salue David Benbassa qui nous a donné sa confiance dès les premières heures de List to Keys. Et aujourd'hui,
on a un point commun, hein, c'est que David est évidemment bien ici. Est également un partenaire majeur de Radio Imo et de Startup Imo. Donc, je suis très fier de le dire aussi.
Voilà,
et de le remercier.
On le remercie aussi. Et puis, cette levée de fonds, entre autres, elle va nous permettre de passer à la phase 2 de ce partenariat avec Bien Ici. Et puis, tout à l'heure, je disais qu'on avait des leads de partenaires, de portails, etc. Donc, ça fait partie des choses qu'on va développer tout début 2022. On est en train de tester ça en bêta. On a lancé ça avec Bien Ici pendant le salon Rent. Et c'est des choses qui vont arriver l'année prochaine, très certainement.
Allez, la dernière question pour parler d'avenir. Dans 5 ans, ce sera quoi, Litsuki?
Alors, dans 5 ans, je pense que d'ici là, on sera dans la poche de presque tous les professionnels. Peut-être souhaitons-nous d'être dans la poche de tous les professionnels de l'immobilier.
Français
et européens, parce que on va au minimum commencer par les pays francophones. Alors, on en a 4 dans notre collimateur. Il y en a un qui est outre-Atlantique quand même, puisque au Canada, il y a un énorme boulevard pour List to Keys. Donc, ça fait partie des choses qu'on envisage d'avoir dans le temps. Et puis surtout, être dans la poche de tous les professionnels. Et l'idée, c'est de leur amener de la data, de leur amener des infos à forte valeur ajoutée. Parce que la promesse, c'est vraiment de rendre légitime de plus en plus et de monter en professionnalisation cette profession qui est challengée, qui évolue. J'ai vu qu'il y avait des statistiques qui disaient que la profession était de plus en plus appréciée des clients. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Et c'est avec des outils comme Leads to Keys qu'on va dans cette direction, en amenant de la data, de la connaissance, de la légitimité sur son secteur de travail, et puis avec de plus en plus de partenaires, des data.
Bravo Laurent, c'était un vrai plaisir de vous écouter, de découvrir cette belle start-up. On vous souhaite plein de succès pour les semaines, les mois à venir, et on vous suivra de près à partir de Radio Imo, et on aura, j'espère, l'occasion de vous recevoir une prochaine fois pour célébrer de nouvelles victoires que vous allez nous raconter. Bravo, merci beaucoup Laurent.
Merci beaucoup Jean-Michel, et je serai ravi de revenir raconter les évolutions de List to Keys.
Avec grand plaisir. Merci.
À bientôt. Merci, au revoir. Dog has been beat too much till you spat half your life.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité du jour, Olivier Vignol, le directeur général d'ICAD, la foncière cotée. Ce sera en compagnie de Sylvain Lévy-Valency qui arrive sur ce plateau. On se rejoint juste après 8h. À tout de suite.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien.